m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien
sûr. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous sommes le jeudi 20 novembre. Bienvenue pour ce Restons Courtois qui, comme tous les jeudis, sera piloté par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis ce soir accompagné de Laurent Dandrieux. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Laurent, vous êtes rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles. Et Victor Hérault, bonsoir Victor.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Victor, si vous n'êtes pas rédacteur en chef, vous travaillez quand même au service politique de VA et on peut vous apercevoir... pas tous les soirs, mais quasiment. Sur quasiment. BFM TV. Nous sommes accompagnés aussi d'Étienne Darjac, éditorialiste bien connu de nos auditeurs. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Marc.
Étienne, vous ne travaillez pas chez Valeurs Actuelles, mais on vous pardonne bien volontiers. Personne n'est parfait et vous avez d'autres qualités. Au sommaire de l'actualité ce soir, un temps de débat puisque nous évoquerons Raphaël Glucksmann, dont les dernières performances nous permettent de douter de ses capacités à défier Jean-Luc Mélenchon dans cette guerre à gauche. Nous parlerons ensuite de l'idée de primaire à droite qui fait son chemin auprès des militants et auprès de certaines personnalités. On évoquera aussi le meurtre de Mehdi Kessassi, un point de bascule pour le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez dans la guerre menée par l'État contre le narcotrafic. On parlera évidemment de cet assassinat et des conséquences dans cette guerre que sommes-nous justement en mesure de la mener et voulons-nous la mener ? Ce seront les questions que nous poserons. Nous recevrons ensuite Étienne de la Ruffie de VA Région qui a couvert pour nous le procès des passeurs de migrants qui s'est déroulé à Paris. Nous recevrons ensuite le chroniqueur de RMC Frédéric Hermel qui a publié un très beau livre chez Fayard intitulé « C'est ça la fois » où il parlera notamment de son rapport au Christ et au catholicisme. Puis nous recevrons le député Renaissance des Yvelines Charles Rodwell. Avec lui, nous reviendrons sur l'avenir de la Macronie. Vous pouvez intervenir évidemment, chers auditeurs, dans cette émission, puisqu'elle est aussi la vôtre au 01 46 51 00 85 ou par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr. Bien messieurs, L'actualité de la gauche a été chargée puisque le week-end dernier, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, François Hollande se sont retrouvés dans banlieue parisienne dans le cadre d'un meeting qui a certes passionné les journalistes politiques mais qui a moins passionné les foules. En même temps, puisque le mot est à la mode, la petite primaire, les participants à la petite primaire, c'est-à-dire Olivier Faure et Marine Tondelier, François Ruffin et Lucie Castet, eux se sont rassemblés pour déterminer les conditions pour désigner un éventuel candidat à l'élection présidentielle. Tout ce petit monde s'est affronté et pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon faisait un meeting à Saint-Pierre-des-Corps où il a évidemment rempli la salle et où évidemment le chiffre des rediffusions sont sans appel. Il a plié, écrasé le match comme il fallait s'y attendre. Je vais commencer par le politique de mes invités. Victor Hérault, est-ce que le match est plié à gauche ?
Ou alors, attention, en politique, rien n'est jamais écrit d'avance, donc je me garderai bien de faire des paris. En revanche, il faut dire concernant Raphaël Glucksmann, concernant Marine Tondelier, concernant toute cette gauche, on peut le dire, de centre-gauche, parce qu'il faut dire que ces gens-là sont de gauche uniquement pour les gens de droite que nous sommes. En réalité, lorsque vous êtes un électeur de gauche, un Raphaël Glucksmann n'est pas du tout séduisant en tant qu'homme de gauche. En réalité, vous vous dites, bon, c'est un centre-gauche, certains diront même centre-droit, puisque c'est un type qui n'est pas très marxiste dans les idées économiques. Raphaël Glucksmann, je prends son exemple purement et simplement, incarne cette gauche qui est en train... de mourir doucement, on pourrait faire le parallèle avec le destin des Républicains à droite, c'est-à-dire ces vieux partis que sont le Parti Socialiste. Lui, il est affilié au Parti Socialiste, c'est Place Publique, hein, son parti, son micro-parti. Ce sont des courants politiques qui sont en train de doucement arriver vers un dilemme qui est, dois-je m'allier au centre ou dois-je m'allier à ce qu'il y a de plus à gauche ou à droite que moi, selon l'endroit où je me situe sur l'échiquier politique. Lorsqu'on regarde les sondages, si vous voulez, Olivier Faure, qui lui est dans une stratégie de responsabilisation de la gauche, de dire je ne suis pas la béquille du gouvernement, mais enfin j'empêche la censure du gouvernement, qui ne dépend que du Parti Socialiste aujourd'hui, pour pouvoir amener une partie des idées du programme du au Front Populaire dans le projet de budget, là où Jean-Luc Mélenchon, lui, incarne la gauche de rupture totale. Et on voit dans les sondages, si vous le voulez, ce qui compte dans les sondages, il faut toujours le préciser à nos auditeurs, ce n'est pas la photo à un instant T, ce n'est pas le score, c'est la dynamique, c'est la tendance. Les seuls qui progressent en ce moment sont le Rassemblement National et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls qui ne prennent pas part à toutes les... Certains diront magouille, d'autres diront responsabilisation, etc., pour éviter le chaos ou l'instabilité, tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui touche au centre et tout ce qui touche à dire il ne faut pas faire tomber le gouvernement pour pouvoir accoucher d'un budget cette année. Les seuls partis qui ne touchent pas à cela, qui ne se mêlent pas à cela et qui font un pas de côté pour rester dans l'opposition la plus pure et parfaite sont le Rassemblement National et la gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui sont les seuls justement à en tirer les bénéfices. Donc il me semble effectivement que Raphaël de Guzman, et on parlera tout à l'heure du débat avec Éric Zemmour, ne s'illustre pas non plus ni par sa radicalité, ni par ses propositions, ni par son programme, ni par son ancrage, encore une fois, à gauche. Ouais. Il n'est de gauche que pour les gens de droite.
Étienne Darjac, c'est la guerre des petits qui essayent de se tailler une part qui, de toute façon, sera inopérante face à l'ogre Mélenchon, en quelque sorte.
Oui, c'est on a l'ensemble des personnalités de gauche anti-Mélenchon qui sont en train de se déchirer pour savoir qui se fera humilier par Mélenchon à la fin. C'est un choix de carrière comme un autre. Mais
c'est la première pour définir qui va perdre.
Moi, je n'ai pas ma crédibilité de journaliste à perdre en faisant des paris, contrairement à Victor. Donc, je vais me permettre d'en faire un. Je pense qu'évidemment, Mélenchon, comme en 2022 et comme en 2017, finira très très loin devant. Je crois que le match est déjà plié. D'ailleurs, on sait que Mélenchon est toujours sondé très bas au début avant les élections, qui monte toujours très vite à la fin. Là, il part quand même haut. Beaucoup plus haut que dans les précédentes élections. Je crois qu'en 2022, il a dû commencer à 8 ou 9, quelque chose comme ça.
Là, il est crédité à quelque chose entre 11 et 12, je crois.
Ouais, c'est ça. Il finit à quasiment 20. Donc là, il part à 13. Donc pour moi, il sera au second tour. J'en suis absolument certain. Donc voilà. Donc le match des perdants est assez rigolo à suivre pour quelqu'un de droite, en tout cas. C'est un match entre les personnalités qui ont le moins de charisme du monde, qui ont le moins de propositions concrètes du monde. Je suis assez d'accord avec Victor sur le fait que ces gens ne se définissent de gauche que par opposition à ce qui existe à leur droite. Mais ils sont, en fait, ils ont le même problème que les Républicains, c'est-à-dire qu'ils sont coincés entre le macronisme qui s'est accaparé leur identité politique, en l'occurrence le progressisme, et qui est au pouvoir depuis bientôt 10 ans, et sur leur gauche, Jean-Luc Mélenchon qui vampirise tout, qui avale tout, et qui, comme je l'ai dit, se prépare à accéder au second tour de la présidentielle. Donc ils ont un espace politique qui est absolument minuscule, et plus cet espace politique se réduit, plus ils sont nombreux à l'occuper.
Laurent Andrieux, c'est un peu ça le problème, c'est trop de petits crabes pour une portion de plage trop petite.
Oui, en même temps, parmi ces petits crabes, Glucksmann est aujourd'hui quand même le mieux placé. Je suis pas d'accord avec vous sur le fait de dire qu'il est pas de gauche, parce que malgré tout, ce qu'il propose, c'est la poursuite de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire toujours plus de redistribution pour toujours moins de production, toujours plus d'Europe et toujours moins de souveraineté. Donc on est quand même dans une logique qui, qu'on le veuille ou non, est la logique qui certes est dominante depuis un certain temps, mais qui est une logique socialiste. Il a un énorme défaut dans son positionnement, Raphaël Glucksmann, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui l'électorat français est en attente de rupture et de radicalité. Or lui, ce qu'il propose, c'est la continuation de ce qui se fait déjà, toujours plus de socialisme, toujours plus d'Europe, toujours plus d'immigration, toujours moins d'intégration.
C'est du mélenchonisme allégé, en fait.
Non, c'est pas du mélenchonisme, c'est de la social-démocratie pure et dure.
C'est de l'atalisme.
Il a peut-être une chance. D'abord, je suis pas certain que le schéma Mélenchon des deux dernières élections se reproduise, c'est-à-dire un score final beaucoup plus élevé que son score initial, parce que il est quand même allé très 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 loin, beaucoup plus loin dans la radicalisation ces derniers temps que les fois précédentes, et on sent bien qu'aujourd'hui, dans l'électorat modéré, ça n'est plus le Rassemblement National qui fait peur, c'est LFI. Donc la donne a un peu changé de ce point de vue-là, et donc j'ai parlé de l'inconvénient du positionnement de Raphaël Glucksmann. Son avantage, c'est son modérantisme, qui fait que si jamais, effectivement, il y a une espèce de lame de fond de l'électorat français qui, malgré tout, veut, dans son marais central, faire barrage aux extrêmes et choisir un candidat résolument non radical, ça se jouera à ce moment-là, je le pense, entre Glucksmann et un candidat de feu, le bloc central. Donc, il n'est pas aussi, à mon avis, dans les choux que vous voulez bien le dire, même si son positionnement politique n'a évidemment rien d'excitant pour personne, mais ça peut le faire par défaut, si je puis dire.
Du coup, si je comprends bien, Victor Hérault, le véritable adversaire de Raphaël Glucksmann, c'est pas tant Jean-Luc Mélenchon, mais par exemple Gabriel Attal, en fait.
Oui, à mon avis, ça va se jouer là, d'ailleurs, lorsque vous discutiez... avec l'entourage de Gabriel Attal il y a un an et demi, c'est ce qu'il vous disait. Il vous disait, en réalité, notre adversaire, ce sera Raphaël Glucksmann. Ce sera pas sur notre droite.
On l'a vu aux Européens de 2024, en fait, avec la percée de Raphaël Glucksmann au détriment de la candidate macroniste.
Gabriel Attal, encore aujourd'hui, est persuadé que son créneau est plutôt de centre-gauche, en réalité. C'est de là qu'il vient, d'ailleurs. Il vient du Parti Socialiste à l'origine, en tant que militant. C'est là qu'il a fait ses armes. Lui est persuadé que le créneau à récupérer est ici, en comptant justement sur la chute de Raphaël Glucksmann. Maintenant, pour répondre à Laurent, moi, je suis parfaitement d'accord sur le fait que, objectivement, l'éthos de Raphaël Glucksmann est socialiste, il est de gauche, mais ce que je veux simplement dire, c'est si on se met dans les baskets d'un électeur de gauche, voire pire, d'un militant de gauche, Raphaël Glucksmann n'est pas du tout de gauche à ses yeux.
À part
les militants de place publique,
mais moi je crois vraiment à la théorie des deux gauches irréconciliables. Et donc il y a une gauche social-démocrate qui ne se reconnaît absolument pas dans la gauche mélenchoniste et pour qui Glucksmann est la vraie gauche.
Mais qui se reconnaîtrait autant dans un programme de Gabriel Attal ou un autre à ce moment-là, qui peut ou prou est la même engeance, à quelques détails près.
Compromis avec le macronisme.
Et il y a eu aussi le clivage de l'antisémitisme aussi. Enfin, on l'avait vu, moi, ça m'avait frappé pendant la campagne des européennes. Raphaël Glucksmann en déplacement à Marseille. Alors évidemment, c'était une électrice ou deux, quoi, mais qui sont allés le voir en disant vous au moins, vous n'êtes pas antisémite comme Mélenchon. Enfin, on a vu que depuis le 7 octobre aussi. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec Laurent Andrieux sur la théorie des deux gauches irréconciliables là-dessus. Il est vrai que le 7 octobre, en tout cas, la gestion et l'interprétation de cet événement par les deux gauches a totalement accentué cette fracture et l'a rendue irrémédiable en quelque sorte.
Je suis parfaitement d'accord, mais je pense qu'à terme, la gauche a toujours le génie, le talent de s'unir et de voter utile lorsqu'il le faut, que celui qui arrivera devant récupérera les voix de l'autre, c'est comme ça que ça se passe. À droite, on n'a pas encore cette intuition-là, on refuse de se boucher le nez et de voter pour celui qui l'emportera pour faire parvenir une partie de nos idées au pouvoir. La gauche, elle, est imprégnée de cette logique-là qui est éminemment politique, qui à mon avis est la stratégie gagnante, et il faut s'en référer à l'émission justement de Raphaël Glucksmann sur LCI il y a quelques jours, lorsqu'une femme dans le public l'interroge, assez complice d'ailleurs, on la sent assez complice de Raphaël Glucksmann, hein, vous voyez très bien de qui je parle, elle l'interroge et lui dit mais qu'est-ce qui pourrait faire que je vote pour vous un jour, et là Raphaël Glucksmann se fend d'une réponse de 2 minutes où absolument personne n'a compris un traître mot de ce qu'il racontait. Il n'y avait pas un élément concret de son programme. Alors que Jean-Luc Mélenchon, vous lui posez la question immédiatement, en 30 secondes, il vous a donné tout son programme. Tout est clair, tout est structuré, tout est précis. Et il y a un avenir qui est proposé. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais au moins c'est clair et c'est précis. Un électeur de gauche, in fine devant l'urne, en voyant Raphaël Glucksmann, qui à mon avis descendra dans les sondages, se dira toujours je préfère voter pour un Jean-Luc Mélenchon en me bouchant le nez, plutôt que de m'abstenir ou de voter pour quelqu'un du centre.
Je pense que malgré tout, il y aura de la déperdition dans l'électorat de ce qu'on appelle l'arc républicain au deuxième tour. Il y aura évidemment une majorité qui se réfugiera.
Ah oui, je veux dire au premier tour, là. Oui. Au second tour, oui.
Si au second tour, pardon, Jean-Luc Mélenchon était face à Jordan Bardella, je pense que l'électorat de Glucksmann... choisira plutôt un Jean-Luc Mélenchon.
Massivement pour autant, forcément.
Il n'y a pas de réflexe suffisamment ancré. En tout cas, pour avoir une idée un petit peu de ce que vaut Raphaël Glucksmann, il y a eu un débat très intéressant sur LCI qui l'opposait à Éric Zemmour. Petite séquence pour vous donner une aperçu du débat.
Arrêtez ces gens que j'ai cités.
Mais non,
vous en avez rien à faire. Mais ça se voit.
Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous donnez pas le bon exemple. Arrêtez. Vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est telle. Raphaël Glucksmann, la diversité. Arrêtez. Non.
Parce que vous êtes.
Voilà, vous avez eu.
Alors, petite pensée pour David Pujadas.
C'est la plus belle synthèse du débat que j'ai pu trouver objectivement, puisque personne n'a réussi à garder son calme. Alors, Raphaël Glucksmann n'a pas pu garder son calme face à la pensée d'Éric Zemmour qui est à l'opposé de la sienne. Éric Zemmour n'a pas pu garder son calme face à ce que représente aussi quelque part Raphaël Glucksmann. D'ailleurs, Zemmour lui a dit à plusieurs reprises en disant vous êtes plus proche d'un bourgeois new-yorkais que d'un français de la France périphérique, vous avez tout dit.
C'est vrai.
Et ben en fait, il y a un petit peu de ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on voit ce débat-là, quand on pense, par exemple, au débat qui avait opposé Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, quand on voit même le débat qui avait opposé Jordan Bardella à Raphaël Glucksmann, eh bien, on se dit que, en fait, bah, il n'est pas présidentiable, en fait. On peut. Raphaël Glucksmann, à mon sens, quand tu sors une prestation comme ça, ne peut pas vraiment être présidentiel, puisque si tu ne peux pas garder ton calme et montrer de la hauteur, une prise de hauteur dans un débat, ça fonctionne pas.
Il y a ne pas garder son calme, il y a la vacuité du discours aussi. Oui. Alors on me dira que certains ont remporté des élections, surtout récemment, avec les deux dernières élections présidentielles, avec un discours assez creux.
Oui, enfin, un peu de pensée printemps, un peu de projet. Et puis,
parce que c'est notre projet, mais Raphaël Glucksmann est particulièrement, c'est ce que je disais juste avant, creux dans ses réponses. On n'a toujours pas compris quel était son projet, quelles étaient ses mesures. On a compris à peu près ce qu'il représentait et ce qu'il le constituait, mais ça ne va pas plus loin que ça. Pour tout vous dire, moi, je n'accablerai pas que Raphaël Glucksmann. J'ai trouvé le débat dans son ensemble assez minable. Rien n'est sorti de ce débat. J'ai l'impression, j'ai été habitué à mieux de la part d'Éric Zemmour. Alors peut-être que parce que l'adversaire qu'il avait était tellement, bas et avait tellement peu de choses à offrir que c'est compliqué de débattre face à quelqu'un qui a peu à offrir. Hein. Ça, c'est vrai que ça nous empêche de rebondir, ça nous empêche
de. Face à une espèce de bloc.
Oui, mais justement, raison de plus pour ne pas s'énerver. Quand on a un édredon mou en face de soi.
Exactement.
Le problème aussi, c'est que pendant ce débat, on imaginait. La tournure qu'aurait prise le débat avec à la place d'Éric Zemmour, Sarah Knafou, qui aurait dit même chose, mais avec calme et sourire. Et pour le coup, ça commence à devenir un vrai problème dans la façon qu'a Éric Zemmour de débattre, je trouve.
Pour vous, il y a un moment où encore quelques débats comme ça et la question se posera, ou d'ailleurs elle se pose déjà.
C'est-à-dire que parce que effectivement dans les sondages, quand elle est testée, Sarah Knafou déjà fait des scores tout à fait honorables, et ensuite parce que effectivement on voit bien à chacune de ses interventions médiatiques la façon extraordinairement efficace qu'elle a de plier ses adversaires en deux avec énormément de bonhomie, de courtoisie, de rondeur, ce qui fait malheureusement cruellement défaut, malgré toutes ses qualités éminentes, à Éric Zemmour.
Et c'est ce qui sert effectivement sa percée médiatique aussi. Étienne Darjac, alors pour le temps le sujet est clair chez Reconquête, ce sera Éric Zemmour qui sera candidat en 2027.
Je sais pas si le sujet est si clair que ça. je me souviens qu'il y a quelques mois, à peu près un an, quand on lui posait la question, et Éric Zemmour était assez catégorique sur la question, en disant qu'il se préparait, qu'il serait candidat, etc. Je crois que c'est récemment Darius Rojbin, je crois, qui lui a posé la question sur LCI. Il était déjà un peu moins catégorique. Je crois qu'il est quelque chose comme... on se posera la question en temps voulu. Donc la question,
ce qui démocratiquement est plutôt une bonne nouvelle, quoi.
Oui, de toute façon,
Reconquête est un parti démocratique.
De toute façon, Éric Zemmour ne pourrait pas se permettre à la télé, quoi qu'il en pense, de dire non, il n'y a pas de sujet, ce serait moi le candidat. Ça serait en quelque sorte déjà désavouer Sarah Knafou. Maintenant, je pense pas que le débat qu'a fait Éric Zemmour mardi soir, même s'il était évidemment perfectible, le disqualifie pour la présidentielle. En fait, faut pas se tromper sur le rôle qu'a joué Éric Zemmour. Autant en 2022, on pouvait être porté à croire qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait se qualifier au second tour un peu par accident, certes, mais qu'il n'était pas passé loin. Autant je pense que personne aujourd'hui ne se dit ça à l'approche de la présidentielle 2027. Il reste, je crois, très pertinent dans la scène politique, comme c'est justement cette personnalité un peu abrasive à droite du Rassemblement National. Et je crois que mardi, le débat était certes parfois un peu compliqué à écouter, mais qu'il a tenu son rôle, que sa tirade notamment sur Lola, Philippine et toutes ces victimes qui n'existaient pas dans les pays que conspue Raphaël Glucksmann était
notamment
utile.
Notamment la Hongrie de Viktor Orban.
Je crois que cette tirade était utile, qu'elle était nécessaire, qu'elle a d'ailleurs plutôt bien marché sur les réseaux sociaux, parce que je crois que même s'il l'a dit peut-être de façon excessive, il a exprimé là ce que pense la majeure partie des Français. La majeure partie des Français, quand on leur parle de Viktor Orban, la vérité, c'est que ce soit un autocrate ou pas, ils s'en foutent complètement. Et par contre, quand ils vont en vacances en Hongrie, ils trouvent ça beaucoup plus reposant. J'ai fait un Erasmus là-bas, il y a 6 mois, il y a quelques années, où j'ai très peu fréquenté les bancs de la fac et beaucoup le centre-ville de Budapest.
On parlera d'Erasmus si vous voulez. Erasmus que Emmanuel Macron voudrait, ainsi que la Commission européenne, voudrait voir élargi aux pays de la Méditerranée d'ailleurs. Algérie, Jordanie.
Absolument grotesque. Palestine. Erasmus est en 20 ans le seul réussite à peu près correct de l'Union Européenne, donc c'est bien.
Oui, alors moi je suis pas d'accord du tout.
Non, je pense
que Erasmus a malheureusement contribué de manière extraordinairement efficace à dénationaliser la jeunesse française, à détacher de l'attachement à sa patrie.
Alors, on parlait de Sarah Knafo et ça tombe bien puisqu'il y a cette idée de primaire à droite qui fait son chemin. Une primaire qui est surtout demandée évidemment par des gens qui ont peu de chances d'être candidats par eux-mêmes, sans leur faire offense. On parle de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, on parle de David Lisnard, le maire de Cannes, on parle aussi de Sarah Knafo.
Et d'Éric Zemmour.
Et d'Éric Zemmour, bien évidemment. Éric Zemmour, d'ailleurs, qui a rencontré à cet effet Laurent Wauquiez la semaine dernière pour en parler. Si quelqu'un a des échos, d'ailleurs, sur ce qu'il a pu se dire, on est preneur. Et en tout cas, visiblement, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, on va passer très rapidement sur Laurent Wauquiez, puisque on a l'impression que globalement tout ce qui peut embêter Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez prend.
Voilà.
C'est en tout cas une des pistes d'explication avant même de parler de la primaire Victor Hérault, Laurent Dandrieux, Étienne Darjac. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Est-ce que surtout elle est souhaitée pour des bonnes raisons?
Je suis Victor Hérault. Très dubitatif à l'idée d'une primaire élargie des droites. Il faut se poser la question, quelle que soit l'issue, qu'est-ce qui se passe après? Bon, admettons, scénario improbable, mais Laurent Wauquiez l'emporte. Voilà. Bon, admettons, je prends un scénario improbable pour ne pas favoriser personne.
Ceci n'est pas une information, chers auditeurs.
C'est une hypothèse. Imaginez-vous Gérald Darmanin dire « oui, je soutiens Laurent Wauquiez à la présidentielle ». Imaginez-vous.
Dans l'absolu, dans l'absolu, pourquoi pas? Enfin, Gérald Darmanin qui soutient Laurent Wauquiez, pourquoi pas?
Je n'imagine pas une seule
seconde. C'est pas le lieu le moins probable.
Je n'imagine pas une seule seconde. Ce scénario se produire. Je ne vois pas ces gens-là qui, encore une fois, faut distinguer la base des têtes de parti. Que la base soit d'accord pour une union ou une coalition, ce qui n'a rien à voir, des droites, pour que les partis de droite qui ont à peu près les mêmes idées mais qui ne sont pas d'accord sur quelques points de détail économique, etc., puissent gouverner ensemble et ensuite trouver des compromis. Bon, ça, c'est un fait. Maintenant, il faut réfléchir à l'incarnation et aux têtes. Je ne pense pas qu'une primaire élargie... Il y a deux façons de voir la question. Un, la primaire est souvent une machine à perdre. Mais deux, s'il y a deux candidats qui y vont, là, c'est le seuil d'accession au second tour va être tellement difficile que ce sera l'impossibilité pour les partis de droite de se retrouver, hormis Rassemblement National. Mais je crois qu'il est exclu de toute façon de cette...
Mais c'est un peu le sujet qui vient après, de toute façon, bien évidemment.
Le Rassemblement National, et que ce soit de la part d'Éric Zemmour, de Laurent Wauquiez ou autre, le Rassemblement National semble exclu de cette configuration de primaire élargie.
Vous demandez à n'importe qui. Il n'a de toute façon aucun intérêt à y aller. Enfin, quand vous êtes crédité à 35% au premier tour.
Quel est l'intérêt? Et puis quel est l'intérêt pour les autres de participer à une primaire où l'un des candidats représente 35% des intentions de vote? Bon, c'est déjà autant.
Mais c'est un peu la même question que les gauches qui essayent de s'opposer à Jean-Luc Mélenchon. C'est que de toute façon, ils sont tous écrasés. Ils disent, il faut quand même qu'il y en ait un d'entre nous qui y aille. Et la primaire peut. Alors, du coup, ça fait un peu des tempêtes dans des verres d'eau, bien évidemment. Mais la primaire, ça permet aussi de désigner un seul candidat plutôt que d'envoyer 5 petits. Envoyer un petit soutenu par tous les autres, en quelque sorte, Laurent Dandrieux.
Oui, mais encore faut-il qu'il soit soutenu par tous les autres. Imaginons la primaire élargie dans la configuration définie par Laurent Wauquiez, gagnée par, je ne sais pas, Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Est-ce qu'on imagine sérieusement que Sarah Knafo va se rallier derrière le vainqueur pour faire sa campagne? Ça n'a aucun sens. Une primaire, moi je ne suis pas d'accord sur la primaire machine à perdre, parce que la primaire de la droite de 2017 n'a pas été très loin d'être une très bonne machine à gagner. Mais ça suppose effectivement une cohérence minimale entre les gens qui participent à cette primaire, de manière à ce qu'ils ne se débandent pas dès la fin de la primaire et en prenant des directions différentes.
C'était une primaire au sein d'un même parti.
C'était une primaire au sein des Républicains, et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'une primaire aurait du sens au sein des Républicains, parce que elle permettrait d'instaurer une dynamique relative au profit du candidat des Républicains, mais une primaire de feu le bloc central ou des droites au sens très 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 large, ça n'a aucun sens, ça n'arrivera pas, et si ça arrivait, ça n'aurait aucune chance de fonctionner.
Étienne Darjac.
Moi, je suis pas si opposé que ça de principe à cette primaire. Je concède volontiers que l'appareillage de certains profils puisse être un peu étonnant, mais je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de la gauche. Il s'agit pas tellement de réfléchir à ça comme la primaire qui désignera le candidat à la présidentielle qui va potentiellement gagner, même si évidemment ce sera le discours affiché. Je pense que c'est surtout une primaire qui sera importante pour les années suivantes, pour la nouvelle ère politique qui va s'ouvrir avec la fin après la fin du macronisme. En l'occurrence, du coup, dans cette primaire, ce qui compte, c'est pas tant le candidat, le vainqueur, la présidentielle, c'est les modalités de cette primaire, c'est les accords, les discussions qui vont peut-être exister entre ces différentes familles politiques. Je vous prends un exemple très, très bête, mais mettons qu'il y ait effectivement un accord entre Darmanin, Retailleau, enfin Wauquiez et Sarah Knafo, admettons. Effectivement, il paraît peu probable de penser que l'une de ces personnalités gagnera la présidentielle avec le soutien des autres. Mais par contre, s'il y a eu un accord, s'il y a eu une discussion au moment de la primaire, il y aura peut-être beaucoup plus de place au moment des législatives pour un accord. Et à ce moment-là, cette base de la primaire, cette base programmatique, cette base de discussion pourrait être très utile. Donc je crois que c'est un peu là l'intérêt de la primaire, c'est de faire parler préalablement la présidentielle, toute cette droite-là. Évidemment, le RN n'en fait pas partie, parce que le RN n'a aucun intérêt à y être, évidemment. Et parce que ces formations politiques-là, pour X ou Y raison, n'ont pas d'intérêt à se rallier immédiatement au RN.
Victor Hérault.
Mon intuition, si vous voulez, parce que je vais mouiller. je vais mouiller. Je vais faire un pari. Si vous voulez, ce qui me paraîtrait, il peut se passer plein de choses d'ici l'élection, bien évidemment, mais ce qui me paraîtrait le plus probable, si on se met dans les baskets, par exemple, des Républicains, qui seraient au cœur de cette, au centre, hein, vraiment, de cette primaire des droites. Les Républicains, à mon avis, ont tout intérêt à se dire, écoutez, on ne fait pas de primaire, on fait des accords partisans, c'est-à-dire, j'accepte, en tant que président des Républicains, etc., de me retirer, de soutenir, je ne sais pas, Édouard Philippe, un autre, qu'importe. En revanche, en échange, aux législatives suivantes, il y a des accords où le candidat d'Ensemble pour la République ne se présente pas face à un candidat des Républicains, ce qui offrirait une circonscription au candidat des Républicains. Je pense que les Républicains aujourd'hui ont tout intérêt à ne pas jouer la présidentielle, mais à jouer la législative qui va suivre, puisqu'en réalité elle sera peut-être plus importante que la présidentielle elle-même.
Et c'est le cas de se refaire
aux législatives.
Et c'est le cas de tous les participants potentiels de cette primaire.
Voilà. Oui, mais
de tous, c'est presque leur seul point commun.
Ça passerait pas par une primaire, donc, c'est-à-dire on ne donnerait pas le choix aux militants, aux sympathisants, mais ça passerait plutôt par des accords entre les cadres des partis, disant
la primaire est le moyen de faire avaler cette pilule-là. Je pense que sans la primaire, ou en tout cas sans les discussions préalables à la primaire, il ne peut pas y avoir cette plateforme-là.
Mais je crains que
si tout le monde, pardon Laurent, si tout le monde est parti à la présidentielle l'un contre l'autre et à passer à la présidentielle, à se taper dessus, à se haïr, comme ça s'est passé en 2022. C'est complètement illusoire de penser qu'il y aura un accord programmatique en un mois pour les législatives. On sait que la gauche y arrive, la droite n'y arrive pas. Il faut faire une croix là-dessus. Donc je crois que c'est l'intérêt de ces prédiscussions.
Après, je trouve que vos théories font la part belle à la certitude absolue que le deuxième tour opposera Jean-Luc Mélenchon à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Ce qui est effectivement, à l'heure où nous parlons, l'hypothèse la plus probable, mais je pense qu'il peut se passer plein de choses, effectivement, et que par ailleurs, je vois mal les autres partis bâtir toute leur stratégie sur cette certitude absolue. Je pense qu'ils ont une espèce de devoir politique et d'habitus mental qui fait qu'ils doivent considérer que d'autres hypothèses sont envisageables et doivent être malgré tout préparées.
Mais je pense que les autres hypothèses, justement, ne sont pas possibles, à moins de réduire au strict minimum le nombre de candidats du centre et de la droite qui s'engagent sur la présidentielle.
C'est sûr, il faudra un candidat de droite et un candidat de gauche.
Engranger suffisamment de voix dès le premier tour pour passer au second tour et passer devant Jean-Luc Mélenchon.
C'est certain.
Donc concrètement, Orange, on est d'accord que Bruno Retailleau, à l'heure actuelle, ne veut toujours pas de primaire, pour le coup.
Non, il ne veut pas.
En tout cas, pas hors des Républicains.
Ce n'est pas, il veut pas, exactement. Voilà, la question. En interne, je peux vous dire que la question est grandement étudiée, travaillée. Et le grand réflexe chez les Républicains, qui me semble être un bon réflexe, c'est de se tourner vers les adhérents en général. Et il me semble qu'on est en train de préparer un vote. Et il me semble qu'on est en train de préparer un vote sans savoir encore exactement, je ne peux pas vous le dire à l'heure actuelle, exactement quel sera ce vote-là.
Il me semble avoir compris que chez les Républicains, on considérait qu'il y avait malgré tout, malgré les déboires récents de Laurent Retailleau, une espèce de réveil.
J'ai essayé
de faire une synthèse avant l'heure, mais qu'il y a une forme de sursaut du parti Les Républicains et que ce serait casser ce sursaut que de ne pas présenter un candidat LR en nom.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis que l'idée de cette primaire existe et que depuis surtout qu'Édouard Philippe n'est pas en grande forme, eh bien, il y a beaucoup de coming out, pardon, Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Je ne sais pas.
Sortie de placard.
Beaucoup de sorties de placard. Je mettrai une piécette. Beaucoup de sorties de placard politique, puisqu'on écoute le Christian Estrosi qui était chez Sonia Mabrouk ce matin.
D'accord, je suis d'abord LR. On m'a mis dehors parce que il y avait un chef à la tête des LR qui lui-même a trahi sa propre formation politique pour essayer de la vendre au RN.
Là, vous me dites ça parce que vous attendez d'avoir le tampon et le soutien
je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui. Dans l'ensemble du bloc central, il y a un accord. Ceux qui sont les sortants seront soutenus pour l'ensemble du bloc central et c'est comme ça.
Je suis LR. Alors, Christian Estrosi, vice-président du Parti Horizon d'Edouard Philippe, qui voit bien la petite menace se profiler à Nice, je pense, qui dit « Je suis LR » et d'ailleurs, j'étais viré du parti parce que mon président, lui, s'est barré du côté du Rassemblement National. Alors, c'est faux. Déjà, on va commencer par là, c'est faux. Alors, c'est faux.
Bien en tout cas,
Christian Estrosi est parti dès 2017, a priori, sentant le vent tourner et là, le vent soufflant dans l'autre sens, eh bien, à Nice, on est sensible au vent. D'un coup, on est LR. C'est un petit peu on retrouve ça un petit peu chez Rachida Dati, chez tous ces gens,
chez Xavier Bertrand,
qui même chez Valérie Pécresse à l'époque, d'ailleurs, on l'a pris en 2021. Finalement, tout le monde revient à la maison. C'est quoi? C'est un réflexe suite à ce macronisme finissant?
Leur devise, ça pourrait être partir, revenir.
Partir, mais pas partir un jour sans retour, du coup.
Non, je pense que effectivement, le truc, c'est que malgré tout, pour être un candidat plausible, il faut malgré tout une étiquette et le soutien d'un parti qui ressemble un peu à quelque chose et que voilà. Ça explique un peu ce mouvement de balancier.
Victor Hérault, sur ce revirement, ce revirement.
Non, mais ça rappelle quand même, malgré, et Laurent le disait tout à l'heure, malgré les déboires récents du Parti Les Républicains, ça reste quand même, surtout du point de vue des municipales et au niveau local, une marque importante. Une marque avec un bel historique, une marque avec une belle base. Donc voilà, ceux qui disent les Républicains, c'est mort, ça n'existe plus, etc. Bah en fait, voir ces gens-là se battre pour pouvoir revenir et avoir la petite étiquette en bas de l'affiche, ça prouve quand même que les Républicains comptent. Maintenant,
on quitte le cadavre de la Macronie pour le corps en soins palliatifs.
En revanche, je pense que Christian Estrosi, en donnant ce spectacle-là, avec le mensonge que vous avez souligné, mon cher Marc, a peut-être tort, parce qu'il vaudrait peut-être mieux dans une municipale jouer parfois sur son propre nom, peu importe le parti qui vous soutient, plutôt que de donner ce spectacle-là. Vous citiez l'exemple de Rachida Dati, c'est plutôt les Républicains qui ont envie que Rachida Dati s'affilie à eux que l'inverse. Hein. Rachida Dati, elle y va en son nom, elle en a absolument rien à faire, elle sait qu'elle
Rachida
sera...
Dati,
si elle est élue, c'est en son nom et c'est en sa personne, ce n'est pas grâce à
elle. Elle a quitté les Républicains, elle est revenue, lorsque Retailleau a dit « nous quittons le gouvernement Le Cornu », elle est restée, donc elle a été virée, puis finalement suspendue.
Mais là, vous avez compris qu'elle était mise à l'écart, mais qu'en réalité, c'était la candidate officielle des Républicains pour les municipales.
Je pense que tout le monde l'a compris.
Si Rachida Dati remporte les municipales, encore une fois, elle ne l'aura pas remporté grâce aux Républicains. C'est les Républicains qui auront remporté une victoire grâce à Rachida Dati.
Elle sera quand même contente de ne pas avoir de candidat républicain en face d'elle. Ça va quand même lui faciliter la chose.
Et d'avoir un soutien de tous les élus locaux qui ont aussi été élus grâce à leur étiquette de droite, qu'elle soit UMP, RPR, UMP,
au sein,
LR.
Au sein du parti, on dit quand même beaucoup que Rachida Dati.
Mais elle a une vraie maison
l'emportera et qu'il y a plutôt intérêt à être son ami que son ennemi.
Elle a une vraie personnalité, une vraie dynamique de campagne, en tout cas. Étienne Darjac, un dernier mot sur Christian Estrosi?
Ou fidèle à ses œuvres, il se trouve qu'en plus assez exceptionnellement, je l'ai écouté ce matin en direct. J'ai été littéralement estomaqué sur le culot de cette déclaration. Moi, je ne crois pas beaucoup au retour de flamme des Républicains. Je crois qu'il aurait pu effectivement s'enclencher si Bruno Retailleau n'avait pas sabordé son propre navire fort récemment. Comme quoi, tout ce que touche la Macronie meurt. Il a sorti ça pour s'assurer le soutien de quelques vieilles dames du côté de la promenade des Anglais. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et je pense que ça en dit surtout long sur lui et sur sa capacité à mentir et à retourner sa veste si souvent que nécessaire.
Il est 18h03, chers auditeurs. Vous êtes à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Raison Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Laurent Dandrieux, Victor Hérault et Étienne Darjac. Dans quelques instants, nous recevrons Étienne de la Ruffie, qui a suivi pour nous le procès de ces passeurs irakiens et afghans suite à un naufrage dans la Manche qui a coûté la vie à de nombreux migrants. Mais d'abord, un petit message de votre radio.
En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85.
Et bonsoir chers auditeurs, vous êtes de retour sur l'antenne de Restons Courtois, sur l'antenne de Radio Courtoisie, dans l'émission Restons Courtois et pas l'inverse. Je suis avec Laurent Dandrieux, Victor Hérault, Étienne Darjac et nous accueillons Étiennette de la Ruffy. Bonsoir Étiennette.
Bonsoir Marc.
Vous étiez, vous couvriez ce procès qui a duré 2 semaines. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné 8 passeurs impliqués dans le naufrage meurtrier d'un small boat, d'un petit bateau, en août 2023. Un individu accusé de piloter l'embarcation a quant à lui été relaxé derrière ce drame. L'enquête révèle l'empire croissante des filières aviennes et kurdes qui contrôlent les départs depuis les côtes françaises, défiant ouvertement l'État. En quelques mots, donc, vous avez suivi ce procès. De quoi était-il question ? Que s'est-il passé ?
Oui, tout à fait, Marc. Alors, il s'agit d'un procès vraiment intéressant parce qu'il révèle l'emprise de filières clandestines, donc en l'occurrence afghanes et kurdes, qui contrôlent véritablement les côtes françaises. Ici, en l'occurrence, 9 passeurs étaient jugés. On avait affaire à 8 passeurs, donc 2 qui étaient irakiens et 6 qui étaient afghans. Et donc on a affaire à un réseau vraiment très bien constitué, puisque on a 2 passeurs afghans qui s'occupent de l'aspect logistique, l'aspect les canaux, les moteurs, etc. Et la filière afghane, elle, qui s'occupe du recrutement des candidats. Donc on a affaire à quelque chose de vraiment très organisé.
Et ce qui est fou, c'est donc il y avait 67 passagers sur ce bateau, à 1500 euros par tête l'embarcation, ça fait quand même une somme d'argent absolument colossale.
Oui, tout à fait. Si on fait la multiplication, on se retrouve à un chiffre d'affaires de 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros, ce qui est tout à fait énorme pour une simple traversée de la Manche qui fait quelques kilomètres, surtout en plus de ça sur une embarcation. On parle quand même d'une embarcation de fortune, un canot de 7 mètres made in China, dans lequel 67 passagers sont entassés les uns sur les autres. Certains avaient des gilets de sauvetage, d'autres avaient des chambres à air. Donc on est vraiment dans des conditions vraiment inhumaines. Et de fait, au moment de l'embarcation, plusieurs passagers, plusieurs migrants ont refusé d'embarquer quand ils ont vu dans quoi ils allaient embarquer. Ouais. C'est le cas de le dire. Mais les passeurs les ont forcés en les menaçant avec des armes pour les faire monter à bord.
Et on en sait plus sur les profils de ces passeurs. Est-ce que ce sont vraiment des criminels organisés ? Est-ce que c'est des gens qui sont insérés dans la société, qui ont des métiers ? Est-ce que le procès a permis d'en savoir plus là-dessus, Étienne de la Ruffy ?
Alors oui, tout à fait. On a affaire à une filière qui est quand même très organisée et la plupart sont tout à fait insérés dans la société, puisqu'on en a un, en l'occurrence, qui travaillait, qui exerçait en France en tant que Uber Eats. Voilà.
Oui, en tant que livreur. Donc, désolé pour les anglicismes, chers auditeurs, mais parfois on n'a pas le choix.
On peut pas faire autrement.
Uber Eats, c'est une marque pour le coup. Oui.
Et les autres, après, les autres, on ne sait pas quoi. C'était des
les autres, non.
Plus inconnus, des services de justice. Et c'est rare que de tels procès aient lieu. Enfin, c'est rare qu'on arrive à interpeller les passeurs et à les faire comparaître devant la justice, a priori.
Oui, c'est vrai. D'autant qu'ici, en plus des passeurs, on avait également un condamné qui était accusé d'avoir piloté l'embarcation. En l'occurrence, il s'agissait d'un Soudanais. Et donc, pendant tout le procès, les passeurs qui comparaissaient devant la justice, on niait vraiment leur implication dans cette affaire. Le tribunal s'est vraiment heurté à une amnésie collective, ce qui a rendu les débats un peu longs.
Ouais. Et pour rappel, ils ont été condamnés lourdement.
Oui, tout à fait. Les peines vont jusqu'à 15 ans, de 3 à 15 ans d'emprisonnement. Donc pour les passeurs, les deux Irakiens kurdes encourent les peines les plus lourdes puisqu'ils constituaient vraiment le moteur du réseau. En revanche, le Soudanais qui était le pilote présumé a été relaxé puisque il est apparu comme la victime des autres passeurs
Et de fait, il a lui-même a nié également avoir conduit cette embarcation.
Mais c'est fou parce que ça jette aussi une lumière différente. Tout le monde est à conscience, et je pense aux auditeurs de Radio Courtoisie, de cette immigration incontrôlée, qui fait beaucoup de mal à la France. Mais il y a derrière aussi des marchands de misère humaine, des marchands de chair humaine presque, qui dans un système mafieux, se font littéralement fortune sur la misère des gens. C'est ça aussi que le procès a mis en valeur Étienne de la Rue.
Exactement, on a affaire ici vraiment à un trafic d'êtres humains, considérable, puisque les personnes comme ça embarquent à bord d'une embarcation en payant une somme considérable, tout ça pour trouver la mort, 1 500 € quand même pour traverser la Manche, c'est vrai que c'est beaucoup.
Et comme dans tout marché, il y a de la concurrence. Et là, en plus, on apprend qu'il y a des réseaux de différentes nationalités qui se font la guerre entre eux pour essayer de prendre la plus grosse part, en quelque sorte.
Oui, d'autant que le procès a révélé l'ampleur de ces réseaux. Et les enquêteurs ont mis le doigt donc sur ces filières. Et l'enquête a laissé présumer la menace à venir de la branche afghane qui entend un petit peu prendre la main et s'émanciper de la filière kurde pour être plus libre de gérer les côtes françaises.
Voilà. Et ben derrière ce drame de ce qu'on appelle souvent l'invasion migratoire, il y a évidemment des histoires humaines terribles et surtout des réseaux de criminels qui font leur beurre sur la misère des gens, et ça c'est tout aussi terrifiant, et c'est très bien d'avoir couvert ce procès pour montrer aussi aux gens qu'il y a aussi cette misère humaine là et ces drames là. Merci beaucoup Étienne de la Ruffie d'avoir été avec nous sur l'antenne de Restons Courtois. Une petite annonce de la radio et on revient vers vous dans 2 secondes, chers auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Restons Courtois, sur les ondes de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Décidément, je ne vais pas y arriver. Je suis avec Laurent Dandrieux, Victor Hérault et Étienne Barjac sur le plateau. Vous pouvez évidemment participer à cette émission en nous envoyant vos questions à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr et par téléphone, et je vous communique le numéro dès que j'aurai retrouvé mon papier. Nous accueillerons d'ici un quart à 18h30 le journaliste Frédéric Hermel, journaliste chez RMC, qui viendra nous parler de son livre sur la foi aux éditions Fayard. Nous recevrons ensuite Charles Rodwell, député Renaissance de la première circonscription des Yvelines. Nous reviendrons avec lui sur l'actualité politique, bien évidemment. En attendant, messieurs, autre sujet, puisque selon Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, un cap a été franchi avec l'assassinat de Mehdi Kessassi, frère du militant des quartiers Amine Kessassi. Amine Kessassi, connu certes politiquement pour avoir été candidat aux élections législatives sous la bannière des écologistes, même sous la bannière du Nouveau Front Populaire, mais surtout militant contre le trafic de drogue, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Un assassinat d'avertissement, disent les magistrats. On serait même tenté de dire acte de narcoterrorisme, Laurent Dandrieux.
Oui, ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression que la situation en France, du point de vue du narcotrafic, est une situation qui devient de plus en plus latino-américaine, avec ce même degré de violence et ce même degré d'organisation en gang extrêmement efficace et qui semble malheureusement souvent avoir un temps d'avance sur la police. Et donc c'est une situation effectivement qui est un peu paniquante.
Victor Hérault.
Mais très rapidement, parce qu'au début on pensait que le meurtre du frère d'Amine Kessassi était un message envoyé à Amine Kessassi lui-même, lui demandant d'arrêter son combat contre le narcotrafic, puisqu'il faut le rappeler, il avait perdu déjà son grand frère en 2020, qui lui était mêlé au trafic de drogue, qui a été tué dans un horrible assassinat règlement de compte entre narcotrafiquants, et c'est là qu'Amine Kessassi a lancé son combat contre le narcotrafic. Très rapidement, je peux vous dire qu'au sommet de l'État, on a considéré tout de suite que ce n'était pas un message envoyé à Amine Kessassi, que c'était un message envoyé à l'État lui-même, en demandant au gouvernement et à tous les représentants de l'État
dans les sphères de l'intérieur.
Exactement. Donc, en réalité, ça s'adressait surtout à l'État de dire mettez votre nez loin de nos affaires de narcotrafic. Il faut savoir que Gérald Darmanin, autant que Laurent Nunez et Bruno Retailleau avant lui, dans la continuité de l'action de Bruno Retailleau, sont en train d'activer tout un tas de plans et de mesures pour enrayer, pour faire la guerre au narcotrafic. Les narcotrafiquants ayant de plus en plus de pouvoir leur disent laissez-nous tranquilles, sinon on va se mettre à tuer des gens. J'ai eu la chance de rencontrer Laurent Nunez pour un portrait vendredi dernier. C'est l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'était le lendemain donc, de l'assassinat de cet enfant, parce qu'il était très jeune. C'était au lendemain de l'assassinat. Il me dit déjà, c'est un point de bascule. Ça n'était en réalité jamais arrivé en France. Et il faut savoir que si on étend cela à la question du narcotrafic plus qu'au meurtre du frère d'Amin Kessassi, Laurent Nunez est très préoccupé. C'est quelqu'un qui a bien connu, puisqu'il était préfet de police des Bouches-du-Rhône, il a bien connu la DZ Mafia, donc DZ Zahir, c'est renvoie à l'Algérie. DZ Mafia qui a remplacé, il faut refaire l'historique pour nos auditeurs également, ce qu'on appelait, c'est des guillemets, hein, c'est leur nom officiel, le clan des Blacks, qui étaient les Comoriens, et le clan des Gitans qui étaient en face, qui se faisaient la guerre à Marseille, ça se cantonnait au territoire de Marseille. Ces deux-là ont été quasiment remplacés intégralement par la DZ Mafia, qui s'est étendue en réalité dans tout le sud de la France, qui est en train de prendre tout un tas de territoires.
C'est installé en Belgique d'ailleurs aussi.
Exactement, qui est en train de s'exporter.
Avec le port d'Anvers, qui est un des principaux points d'entrée de la cocaïne.
On avait même demandé, j'étais avec Tuguel Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, on posait la question à Laurent Nunez, est-ce qu'un scénario à la Mocro Mafia, c'est-à-dire c'est la mafia marocaine qui sévit aux Pays-Bas et qui est à un stade très avancé de
pression. Qui avait
de
menacé d'attentat le Premier ministre,
exactement,
notamment.
Qui avait envoyé une voiture bélier dans un journal qui avait révélé le nom de son principal, de l'une de ses têtes, qui fait pression sur les magistrats, sur les politiques, etc. Là, on est vraiment dans un scénario de mafia italienne, quoi. C'est vraiment avec énormément de pouvoir, et Laurent Nunez ne niait pas qu'on puisse y arriver un jour. Il disait, tout est mis en œuvre pour éviter ce scénario-là, mais on a conscience que c'est une possibilité.
C'est la question, Étienne Darjac, puisque aujourd'hui c'est un militant, et je pense que c'est l'avertissement, il est aussi dans ce sens-là. Aujourd'hui c'est un militant, demain un magistrat, un élu, un préfet, on a l'impression qu'on assiste au début d'une escalade qui pourrait ne pas s'arrêter.
Au début, non, malheureusement, parce que ça fait des années et des années qu'il y a des dizaines de morts par an à Marseille. Et que, à part quelques médias locaux et nationaux, ça émeut plus grand monde, c'est devenu normal. Moi, j'entends que Laurent Nunez dise tout est mis en œuvre pour arrêter ces drames. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors, je remets pas en question le courage des magistrats sur place, je remets pas en question le courage de la police sur place, qui doit avoir fait un travail, je pense, épouvantablement dur. Mais tout n'est pas mis en place parce que sans vouloir paraître monomaniaque, la première des sources de main-d'œuvre de ces mafias, c'est l'immigration. C'est parce que la France, et particulièrement Marseille, est dans un état chaotique à cause de l'immigration de masse que ces gens peuvent opérer. C'est parce que on a laissé des quartiers entiers se vautrer dans l'anarchie que ces gens-là peuvent prendre la place, finir par prendre la place de l'État. J'avais lu un article absolument terrifiant, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel média, qui disait que maintenant, certains dealers commençaient à rendre des services publics à leur quartier.
Absolument. Mais à la distribution de fournitures scolaires au début de l'année.
Exactement.
Qu'ils
animaient la ville l'été, qu'ils organisaient des barbecues, des choses complètement folles.
Qui est un comportement de mafia.
Qui est un comportement de mafia. Mais je veux dire, on a préparé le terrain pour ces gens. Et pardon, ce n'est pas anecdotique que la mafia soit algérienne. Elle prospère sur sa propre population. Donc, est-ce qu'on met tout en œuvre pour lutter contre ça? C'est pas vrai. Objectivement, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites.
Victor Hérault.
Mais c'est pas vrai.
Non, mais d'ailleurs, dès le constat, vous savez, c'était la phrase de Piggy qui adorait Bruno Retailleau, qu'il adore toujours d'ailleurs.
Piggy adorait Bruno Retailleau.
La phrase que citait régulièrement Bruno Retailleau, qui me semble très juste, c'est il faut dire ce que l'on voit, mais ce qui est plus difficile encore, il faut voir ce que l'on voit. J'avais interrogé effectivement Laurent Nunez sur la question du lien entre insécurité, narcotrafic ou non, compris dans la question, et l'immigration, en lui citant les exemples justement, vous parlez de DZ Mafia, donc d'Algérie. Vous parlez de clan des Blacks, c'est-à-dire les Comores. Bon, y a-t-il un lien? Enfin, voilà, tous ces gens-là viennent d'immigration, ou en tous les cas, se rattachent à un autre pays que le leur.
On est au stade où
Laurent Nunez me dit, je ne peux pas faire ce lien-là, je n'irai pas jusqu'ici.
Alors, Emmanuel Macron, en 2022, d'ailleurs, avait dit, tout en reconnaissant qu'il y avait un lien, d'ailleurs, mais Darmanin a fait le même numéro un an après, en 2022, en octobre 2022, Emmanuel Macron a dit, il n'y a pas de lien existentiel entre, entre l'immigration et l'insécurité.
Ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on en arrive au stade où le grand remplacement ne s'effectue plus au détriment des Français de souche, mais au détriment de communautés étrangères
qui sont grand
remplacés par d'autres.
Il y a un peu de ça, Laurent, c'est vrai. Bon, en tout cas,
je fais une petite incise parce que j'ai regardé un reportage très intéressant là-dessus très récemment sur ce sujet-là, qui expliquait la croissance extraordinaire de la mafia albanaise, qui a notamment un pied très important en Italie et en Belgique. En Belgique, ils ont aussi menacé des magistrats, des hommes politiques. La mafia albanaise et le reportage. Alors, c'était, je crois que c'est Le Monde qui faisait ça. Donc, ils marchaient un peu sur des œufs. Mais le reportage expliquait justement que cette mafia albanaise, qui est très implantée donc en Italie, en Belgique, en Amérique du Sud, où elle s'occupe presque quasiment de tous les imports de cocaïne en Europe, expliquait que cette mafia albanaise ne parvenait pas à mettre pied en France, précisément parce que les affaires sont tenues par la deuxième mafia. Voilà, et on avait presque l'impression que le monde s'en rend
fier. Nous n'avons plus de frontières, donc, mais rassurez-vous,
dormez tranquille, bonnes gens, la deuxième mafia nous empêche d'être envahis par les Albanais.
L'Albanie a certes la première ministre d'IA. L'Albanie avait percé dans l'actualité en présentant une ministre en charge de l'intelligence artificielle, une ministre elle-même qui est elle-même une intelligence artificielle, mais selon d'autres sources, l'Albanie s'oriente aussi directement vers le narco-État, au sens strict du terme. L'Albanie que certains voudraient voir intégrer l'Union Européenne par la même occasion, puisque après tout, pourquoi pas. Chers auditeurs, bien évidemment, c'est positivement effrayant. Moi, la seule chose un petit peu positive, si je puis dire, que je pourrais voir dans cette affaire, c'est que le jour, et ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 70 en réalité avec l'assassinat du juge Michel, le jour où il y a une autorité qui est assassinée, c'est-à-dire que ce soit un juge, un préfet, un magistrat, là pour le coup, il y aura aussi un point de non-retour dans la riposte.
C'est ce qui s'est passé en Italie, hein. c'est effectivement l'assassinat de magistrats, de généraux anti-mafia. Qui a suscité un effet de sidération tel que la réaction s'est enfin enclenchée. D'ailleurs, intéressant, parce que réaction anti-mafia, mais réaction politique aussi, c'est-à-dire que c'est tout le système politique qui a explosé. La vieille collusion gauche-centre-droit a explosé pour permettre le renouveau de la droite. Alors bon, j'espère qu'il ne faudra pas en arriver jusque-là en France pour pouvoir faire enfin l'union des droites. Mais c'est souvent effectivement les mafias elles-mêmes, j'allais dire, qui creusent un peu leur tombe en allant trop loin dans la provocation anti-institution.
En tout cas, ce sera évidemment un aller sans retour. Une auditrice, nous écrit. Effectivement, on n'en a pas parlé de cette déclaration du général Mandon quand nous annonce qu'il faudra sacrifier nos enfants dans une guerre programmée. Vos querelles donc sur les primaires de droite paraissent bien subalternes. Qui peut dire de quoi sera fait l'avenir? C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur cette déclaration du chef d'état-major des armées, tout comme qui a suivi d'ailleurs d'autres déclarations par d'autres officiers un petit peu dans les différents médias. On a l'impression qu'en tout cas il faut avertir l'opinion qu'une guerre peut arriver, voire va arriver. Alors évidemment, ça pose énormément de questions. C'est évidemment une guerre, ce serait plutôt avec la, a priori avec la Russie. Enfin, ça paraît plus évident.
Ciblé, oui.
Est-ce que c'est une menace qui est réelle? Est-ce qu'il faut rentrer dans le jeu? Est-ce qu'il faut y voir par cynisme absolu une volonté politique de peser dans le débat public? Enfin, évidemment, lorsque je dis ça, je suis presque à m'auto-flageller pour complotisme aggravé, mais Victor Hérault.
Je suis partagé sur cette question. Déjà, il faut bien comprendre ce qu'il a dit. Je pense que le mot de trop, et d'ailleurs, si vous écoutez l'extrait chez vous, vous vous rendez compte qu'il hésite 3 secondes avant de le dire. Je pense qu'à ce moment-là, il dépasse son texte, il dépasse son discours, il dépasse sa pensée également.
Propos qu'il a tenu lors de l'Assemblée de l'Association des maires de France.
Lorsqu'il dit devant les maires de France, Il faut être prêt à imaginer que nos enfants pourront mourir. Bon, là, je pense qu'il va trop loin. En revanche, dans l'intention de départ, je pense qu'il n'a pas tort de le faire. Ne caricaturons pas ce qu'il dit. Il ne dit pas « il y aura une guerre avec la Russie dans 3 ou 4 ans ». Il dit l'objectif que nous devons nous fixer est le suivant. Dans 3 ou 4 ans, il faudra être prêt à affronter le pire. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire que nous sommes tellement en deçà de nos capacités de réponse en cas de conflit militaire qu'il faut pouvoir relancer la cadence pour pouvoir répondre. Maintenant, simplement, moi je pense que c'est une bonne intention, qu'il faut repréparer la population à ce genre d'éventualité, même si elle semble encore lointaine, et par le territoire et par la temporalité. Mais en revanche, là on est face à notre œuvre, c'est-à-dire que pendant des années, des décennies, on a expliqué que le patriotisme c'était l'extrême droite, et maintenant on explique aux gens, patriotisme c'est-à-dire défendre la patrie, parce que si vous ne savez pas ce que vous allez défendre, bah, vous n'avez aucune envie d'aller vous battre. Donc là on explique, il va falloir être prêt à constituer un sacrifice, voire même à sacrifier vos enfants, pour une idée dont on vous a expliqué depuis toujours, certains depuis qu'ils sont nés, c'est mon cas, que c'est une idée d'extrême droite, c'est-à-dire se battre pour votre patrie. Même pire que ça, on a effacé le cercle concentrique de la patrie. On est en train d'effacer le cercle bien en deçà de ça, qui est celui de la famille. On est en train de recentrer tout ça sur le dernier point au centre de tout cela, qui est l'individu. Bon, et puis on est en train de dire aux gens, il va falloir être capable de se projeter pour pouvoir se battre au-delà, cette fois-ci, non pas pour la patrie, mais pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on est en train de constituer un cercle qui est encore plus large que tous ceux qu'on a déjà détruits. Donc on est en train de griller 10 étapes d'un coup pour essayer de rattraper 40 à 50 ans de destruction de l'esprit patriote.
Dans une société qui n'a jamais été aussi morcelée, fracturée, intercommunautarisée, etc.
Pourquoi irait-on se battre? C'est ce qu'on entend le plus lorsque vous demandez aux Français. Ils vous disent, mais pourquoi est-ce que j'irais me battre?
Étienne Darjac.
Oui, très rapidement, moi je suis pour aller un peu à contre-courant, je suis pas de ce qui a été dit forcément, mais je suis pas du tout choqué par sa déclaration. Alors évidemment, on pourrait discuter très longuement de la possibilité de la guerre avec la Russie, de la menace russe, etc. Ça serait une très longue discussion, je pense pas que ça soit le thème là tout de suite, mais je comprends pas pourquoi on s'étonne qu'un militaire et qu'un général disent au pays dont il a la charge de la défense que ce pays doit être en capacité un jour de pouvoir perdre ses enfants quand il y a la guerre. C'est littéralement son métier.
C'est ce qu'a fait l'armée
pendant toute l'histoire de France.
Il y a deux choses dans cette déclaration. Il y a effectivement cet aspect-là qui me paraît nécessaire, surtout quand on voit la difficulté qu'a un pays en guerre, à savoir l'Ukraine, à mobiliser sa propre jeunesse pour aller au front. On se dit que rappeler qu'effectivement un pays ne peut pas tenir sans être capable d'effectuer ce genre de sacrifice est une bonne chose. Après, il est vrai aussi qu'il y a en ce moment une instrumentalisation absolument éhontée de la Macronie, de ce risque de guerre exagérément grossi, sachant que l'armée russe, jusqu'à nouvel ordre, patine plutôt en Ukraine qu'autre chose, même si elle grignote petit à petit le territoire ukrainien, mais c'est quand même pas une marche triomphale. Donc ce risque de guerre est exagéré de manière délibérée par le macronisme à des fins électoralistes, parce que on constate malheureusement que depuis le début, le catastrophisme et l'alarmisme sont les principaux carburants de la Macronie.
Merci beaucoup Laurent Dandrieux. Tout de suite, chers auditeurs, un message de votre radio. Ensuite, nous recevrons Frédéric Hermel qui viendra nous parler de son ouvrage édité aux éditions Fayard, C'est ça la foi. À tout de suite.